Il est 11h47, une belle matinée avec nous sur Alpe 1.
Alpe 1 et vous, Alpe 1 et vous, les bons plans d'Annie.
Une fois par mois, on vous propose une rubrique éducation sur l'antenne d'Alpe 1 dans Alpe 1 et vous. Notre consultant éducation qui nous accompagne tout au long de l'année, c'est Didier Siran, le directeur du collège lycée Saint-Joseph à Gap. Bonjour.
Bonjour.
Alors on a parlé de plein de choses avec vous tout au long de cette année. On a parlé beaucoup de cette réforme qui touche nos enfants et puis on a parlé de plein de choses qui concernent le système éducatif français aujourd'hui. Alors évidemment, il y a un côté sympa en fin d'année, surtout, on va dire, au collège et au lycée, mais également dès la primaire, ce sont les voyages de fin d'année. Ça fait partie intégrante de l'éducation de nos enfants de partir à la découverte du monde avec leurs profs.
Oui, ça fait partie de l'éducation, mais de longue date. Vous savez, les voyages forment la jeunesse, on l'a entendu dans toute la littérature. Oui, ça fait partie de nos habitudes, ça fait partie de la culture des enseignants. Ça fait partie de la demande des familles aussi, et puis ça fait aussi partie des programmes quelque part. Mmh. C'est une façon d'illustrer les programmes.
Ils ont évolué ces voyages scolaires durant ces années. Alors moi je vois, nous on partait en Angleterre quand on était gamin. Nos enfants aujourd'hui vont partir au même endroit, dans la même ville, à Londres, à Rome ou à Barcelone, mais avec quand même une façon de visiter la ville ou le pays, ou même d'appréhender la langue qui est différente.
Oui, de plus en plus on essaie d'avoir des voyages avec une thématique. On va aller à Barcelone pour la langue, pour Barcelone, mais on peut avoir aussi une thématique d'architecture et d'aller découvrir toutes les œuvres de Gaudi. Mmh. Donc on rajoute à l'intérêt linguistique la dimension culturelle et patrimoniale.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une éducation transversale qui se fait entre différentes matières lorsqu'on part en voyage scolaire ?
Oui, un voyage organisé dans les règles de l'art devrait être transdisciplinaire. Mmh. C'est-à-dire que si je vais à Barcelone, quand je suis au collège, eh bien, dans le cadre des épreuves artistiques, le prof d'art plastique peut participer également.
Le prof d'histoire, Géo.
Le prof d'histoire, bien sûr. Et tout ça peut rentrer dans le cadre du diplôme national du brevet de préparation à cette épreuve d'histoire de l'art.
On part généralement à quel âge et en quelle classe en voyage scolaire ? Il y a des tranches d'âge. Alors, au niveau éducation nationale, puisque vous dites que ça fait partie du cursus scolaire et de l'apprentissage, est-ce qu'on demande aux proviseurs, aux profs d'organiser des voyages à un certain âge ?
Non, on ne nous le demande pas. C'est souvent les enseignants qui voient l'intérêt, par exemple, d'aller en Angleterre à partir de la quatrième. C'est là où ils ont étudié suffisamment de choses. Et leur curiosité est vraiment éveillée depuis 2 ans, ils ont envie. Donc le gros de la troupe, si je peux m'exprimer ainsi, part en quatrième. Souvent, je pense qu'on est...
Sur la première langue.
Oui, sur la première langue.
D'accord.
Part en quatrième et on va avoir des voyages langue 2, sur la deuxième langue étudiée, souvent en troisième ou en seconde pour les lycéens.
Vous qui connaissez bien l'éducation nationale, vous êtes proviseur d'un collège-lycée, donc vous connaissez également le système pour les maternelles et les primaires. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge où c'est très difficile d'organiser des vacances, des voyages scolaires ? Pas forcément quand ils sont tout petits que c'est le plus difficile.
Non, c'est...
C'est différent en fait, vous n'avez pas la même façon d'aborder les voyages ?
Ce qui est difficile dans un voyage, c'est la gestion du groupe. Mmh. Donc on amène des enfants ou on amène des adolescents et il y a des tranches d'adolescence qui sont... plus complexe à gérer. C'est vrai que la tranche quatrième n'est pas la
plus
simple.
Les hormones, c'est difficile.
N'est pas la plus simple.
Ouais, effectivement. Mais... Alors, on part en Angleterre, on part à Barcelone, on part à Rome, on part à Berlin, pour ceux qui parlent allemand.
Oui, bien sûr. Berlin, Munich.
Voilà. Et ça, c'est pour les voyages scolaires linguistiques. Mais aujourd'hui, il existe d'autres voyages scolaires. On part à la découverte de régions françaises ou d'autres parties de l'Europe, notamment les voyages d'histoire, soit en Pologne ou en Italie, à Pompéi par exemple. On va découvrir l'Europe aujourd'hui d'une manière différente en voyage scolaire.
Vous savez, pour un professeur d'histoire, aller mettre en place un voyage pour le devoir de mémoire de la Shoah fait partie non seulement de la culture des profs, mais de cette obligation morale qu'on a de garder ça en tête. Donc beaucoup de voyages à Auschwitz...
Ça doit être dur, parce que là, on parle encore d'une autre, un autre apprentissage des voyages, c'est-à-dire qu'il faut gérer l'émotion des grands et des petits, se retrouver face à un contexte qui est très compliqué. Il faut préparer à cette partie de l'histoire qui est très dure, qui concerne les Français, les Allemands, on va dire, et au niveau international. Est-ce que ça fait partie aussi de la préparation des enfants ? On part à quel âge à Auschwitz ?
La dernière expérience qu'on a sur ce type de voyage, c'est les troisièmes.
Ouais.
On est plus proche de leur programme. Non, c'est un travail d'une année. C'est un travail d'une année aussi avec des intervenants, avec des films vus, des documentaires. Le déplacement n'est que la concrétisation. Je vais aller au-delà de ce que j'ai vu dans les livres ou vu à la télévision. Mm-hmm. Je vais aller sur le terrain où ça s'est passé. C'est lourd d'émotions. Les élèves sont souvent très marqués.
C'est-à-dire que quand on part à Londres ou à Barcelone, on part un peu en voyage rigolo avec les copains. Là, quand on part à Auschwitz, on doit revenir. Dans le car, l'ambiance ne doit pas être la même au retour quand même.
Tout à fait. Ouais. C'est souvent assez silencieux.
J'imagine bien. Bon, alors, ces voyages scolaires, est-ce qu'ils sont obligatoires lorsqu'il y a une tranche d'âge qui part? Par exemple, les quatrièmes, on va dire que quasiment toutes les classes de quatrièmes partent la même année. Si des parents ne veulent pas que leurs parents partent, c'est possible que leurs enfants partent?
Absolument. Il y a des familles qui souhaitent que tout voyage se fasse dans le cadre familial. Mm-hmm. Il y a des parents qui voyagent beaucoup, donc ils considèrent que ce n'est pas le rôle de l'école. Mais ils sont quand même minoritaires. Donc on a toujours un taux de participation minimal qui est à 80% sur un voyage.
Est-ce que ça veut dire qu'un enfant qui n'irait pas à un voyage scolaire, il est un peu pénalisé entre guillemets par rapport aux autres, cet apprentissage-là du groupe? Parce qu'il n'y a pas que l'apprentissage de la langue et de ce qu'on découvre sur place, mais c'est la cohésion de groupe avec les copains, les profs, c'est une façon différente d'être avec les autres. Ça fait partie du quotidien.
Il y a souvent chez les enfants ce sentiment d'être un peu exclu, quoi, de ne pas participer à une expérience que vont vivre les autres. Donc, ils regardent ensuite les autres comme avec envie. Mm-hmm. C'est-à-dire, ils ont eu cette expérience et je n'ai pas pu y participer. C'est toujours dommage.
Alors, il y a le problème de l'argent aussi. Ouais. Ça coûte de l'argent de partir en voyage scolaire. Toutes les familles ne peuvent pas forcément le faire. Comment ça se passe dans les établissements scolaires? Est-ce qu'il existe, dans le public et dans le privé, des bourses, des aides, des échelonnements? Comment ça fonctionne?
Alors, des échelonnements, c'est toujours possible. Chaque établissement arrive à échelonner les paiements quand on s'y prend suffisamment à l'avance. On dit en début d'année, le voyage est au mois de mai, vous paierez votre voyage en 8, 9 ou 10 fois. Ça, c'est toujours possible. Il y a quelquefois des aides assez rares quand même. Il n'y a pas beaucoup de bourses spécifiques pour les voyages. Mais on a beaucoup d'associations de parents, beaucoup de professeurs.
Il y a beaucoup de choses qui sont organisées, que ce soit dans les lycées, professionnels, les établissements publics, les privés. On voit toutes les années des lotos, balles, des repas, des choses qui sont organisées pour récolter des fonds, donc pour permettre aux enfants de partir et pour que les coûts soient moins lourds pour les parents, en fait.
Et oui, là, ça tient vraiment à l'énergie que les enseignants mettent pour offrir ces voyages. Et ils se dépensent beaucoup en termes d'énergie pour aider les élèves au financement. Donc on arrive pratiquement toujours à faire en sorte que les élèves puissent y aller, les jeunes puissent y aller.
Est-ce que vous êtes confronté à donner des conseils aux parents? Qu'est-ce qu'on met dans la valise? Qu'est-ce qu'on emporte? Qu'est-ce qu'on n'emporte pas? Quelle somme d'argent? Je suppose que c'est des questions que se posent les parents.
Toujours dans les réunions préparatoires, parce qu'il y a toujours une réunion préparatoire, c'est la question qui revient. Dans les voyages, tout est compris. L'hébergement, la nourriture, de quoi ont besoin les enfants? S'acheter une glace,
ramener quelques souvenirs.
Moi, ce que je pourrais conseiller aux parents, c'est de faire un budget prévisionnel avec leur enfant. C'est-à-dire de se mettre autour d'une table et dire, voilà, on prend une feuille.
D'accord. Tu vas dépenser quoi? Tu vas te ramener trois mugs, des cartes postales pour papy-mamie. Enfin, voilà. Et combien ça va te coûter, à peu près?
Exactement. C'est-à-dire, on ne lui dit pas, je vais te donner 50 euros. On lui dit, voilà, de quoi tu as besoin sur ce voyage? Qu'est-ce que tu aimerais ramener? On essaie de tout chiffrer. Et je pense que l'exercice est intéressant. Parce que l'élève, il part avec un budget, il sait ce qu'il peut dépenser, il sait à quel moment il va pouvoir le dépenser. Donc, c'est toujours un petit plaisir avec ses enfants de faire ce genre de choses.
Je voulais juste vous poser une question sur les conditions de sécurité d'un voyage scolaire. Vous avez été confronté, aux attentats, notamment à Londres et Barcelone, avec des périodes, c'est tombé sur des périodes de départ de voyage scolaire. Évidemment, les parents sont inquiets. Comment est-ce que vous pouvez rassurer les parents qui ne voudraient pas envoyer leurs enfants en voyage scolaire parce qu'ils ont peur des attentats ou de ce qui peut arriver à leurs enfants sur place?
Difficile d'avoir des mots rassurants. Le monde est dangereux. On ne peut pas non plus se le cacher. Ce qu'on peut dire aux parents, c'est que toutes les précautions sont prises par le ministère de l'Éducation nationale. C'est-à-dire que tout est enregistré. Le ministère sait qui se déplace, à quel endroit. Le ministère des Affaires étrangères donne des préconisations sur les zones à éviter, sur les zones totalement interdites, sur les zones où il faut prendre un certain nombre de précautions. Donc beaucoup de précautions sont prises. Et puis les professeurs encadrants sont sont des gens sérieux qui je donne un exemple, par exemple, aller à Paris, c'est difficile. Mmh. Mais aller à Paris dans des transports en commun, aujourd'hui, on peut se poser la question. Donc, on peut aussi organiser un voyage à Paris sans transport en commun, avec son propre bus, en limitant les risques.
Il n'y a pas de risque zéro.
Il n'y a pas de risque zéro. Mmh.
Le logement sur place, qui est-ce qu'il choisit ? Ça peut être en famille d'accueil, ça peut être en auberge de jeunesse, il y a différents types de logements. Vous connaissez, vous, les gens qui accueillent les enfants ?
Non, ils sont choisis par les organismes de voyage. Ce sont souvent des bénévoles ou des personnes légèrement rémunérées qui en font aussi une petite activité d'un point de salaire, qui acceptent mais qui sont quand même sélectionnés. Les organismes de voyage ne permettent pas à une famille qui aurait des problèmes d'accueillir d'autres enfants.
Mmh. Les voyages scolaires, c'est maintenant, au mois de juin, généralement ?
Eh oui, c'est souvent traditionnellement en fin d'année. Mais on commence à avoir des propositions ou des enseignants qui disent « Non, moi je préfère le faire en septembre ou en octobre. Mm-hmm. » Parce que le thème étudié, ensuite je pourrais le reprendre toute l'année. Ouais. Donc des voyages.
Ça se fait en primaire aussi, notamment.
Septembre-octobre, de plus en plus. Hein, on voit ça, notamment en Angleterre. Parce que la période des fêtes du moment, là, avec tous ces ponts, elle est totalement surchargée.
Et on va se retrouver à Londres. Oui, puis si tous les établissements scolaires de France partent au mois de juin, finalement de partir au mois d'octobre, on a plus de liberté sur place.
Mais je pense qu'on choisissait traditionnellement le mois de mai-juin pour aller en Angleterre à cause de la météo.
Ouais. Effectivement,
en
fait mieux qu'au mois d'octobre.
Excellente au mois d'octobre.
Bon, ben merci beaucoup en tous les cas Didier Sirand de nous avoir parlé des voyages scolaires. On parlera avec vous dans notre prochain rendez-vous des cahiers de vacances. Est-ce qu'il faut faire les cahiers de vacances ? Est-ce que c'est important ? Ben on verra ça avec vous au mois de juin. Merci.
Au revoir.
Les bons plans d'Annie, tous les matins sur Alpe 1 à 11h45.